Vertigo de 16h30 à 18h. Vertigo sur la première.
Bonjour Antoinette Richner.
Bonjour Christine.
Vous allez bien ?
Petite fébrilité quand même.
La fébrilité de la veille,
oui,
de la première.
La première et demain, exactement.
Ça ressemble à quoi cette fébrilité-là ? On doute, on se dit non, c'est pas ça, c'est pas bon.
Il est plus temps de douter, mais on essaye d'être réactif dans l'instant, je pense, de la représentation.
Une performance littéraire et théâtrale à découvrir à la Chaux-de-Fonds, au Temple allemand, dès demain soir et jusqu'à dimanche. Le concept bougera ensuite au Théâtre du Pommier à Neuchâtel du 29 au 31 octobre, puis en décembre au Théâtre de 21 à Lausanne. Expliquez-nous ce concept mieux que je ne l'ai fait, qui semble assez délirant.
Très concrètement, le dispositif, c'est deux strates de textes différentes. La première, c'est traditionnellement du théâtre parlé. Donc, on a un comédien incarné sur scène qui va en fait interpréter un récit que j'ai écrit en amont. Et d'autre part, on a en fait ces capsules dont que vous avez évoquées tout à l'heure. Ce sont deux petites capsules qui contiennent chacune une auteure. Moi-même et Julie Gilbert, qui est scénariste et auteure pour le théâtre.
Donc des vraies capsules avec des murs et un toit.
Tout à fait, en 3D, une grandeur nature, solide, voilà, on nous voit pas, on est dedans, on est caché. Mais en fait, ces capsules sont reliées par quelques petits câbles magiques à la régie. Et donc, tout ce qu'on écrit en temps réel est projeté sur scène, donc lisible par les spectateurs.
Et le comédien en fait quoi de ce texte, puisqu'il y a Cédric Simon qui est sur scène à ce moment-là?
Il n'interagit pas directement avec ce qui est écrit, parce qu'en fait, dans les deux fables, comme on dit chez les théâtreux, les deux histoires en fait sont progressivement entremêlées. Donc lui, il est, je dirais, dans sa temporalité, dans son histoire, et nous, dans une autre. Et c'est ces deux histoires qui vont en fait se frotter, se tisser petit à petit.
Et au départ, le rien, le vide, le néant, quoi, le récit post-apocalyptique.
Oui, c'est vrai que je pense que j'ai cette petite inquiétude pour l'espèce humaine en moi, cette notion de fin du monde qui peut parfois me tarabuster un peu.
C'est vrai, vous y pensez ?
Ouais, j'ai parfois cette sensation de sursis un petit peu, mais... Après, l'idée, je pense que les problèmes, on les connaît tous. Je n'ai pas le problème de ressources, surpopulation, menace nucléaire, etc. Donc pour moi, l'idée, c'est évidemment pas du tout de taper sur le clou. C'est plutôt de me servir de ça pour faire levier, pour créer, pour créer un monde, créer des images, créer du poème dramaturgique. Mon envie, c'est bien évidemment de faire un spectacle qui donne les frissons esthétiques, émotionnels. Donc c'est là que ça se passe en fait. C'est pas un prétexte, mais c'est juste un point de départ.
Et du coup, chaque soirée proposera un objet unique.
Oui.
Tous les soirs, ce sera différent.
On a des petites articulations qui sont fixées. On a un canevas. Mais à l'intérieur de ça, il y a vraiment des plages d'écriture qui sont différentes chaque soir.
Et puis, ça va à l'encontre un peu de l'idée de l'auteur qui a besoin que demeure son texte.
En fait, j'ai l'impression que ça questionne en tout cas la place de l'auteur au théâtre, ça c'est sûr. En tout cas, la dernière décennie, c'est une question qui a fait débat. Il y avait par exemple le livre de Hans Liesleman qui s'appelait Le théâtre post-dramatique, où on déclarait clairement que le texte de théâtre, c'était plus l'architecture du spectacle, c'était juste un matériau dont les praticiens de théâtre pouvaient disposer comme ils voulaient. C'est vrai que c'est une idée qui est devenue sacro-sainte maintenant, que voilà, le texte c'est du matériau. Puis parallèlement à ça, on voit aussi beaucoup de metteurs en scène qui font des adaptations de romans, de BD, de tout ce qu'on veut. En fait, presque la pièce de théâtre montée sur scène, c'est presque devenu une rareté, on peut dire. Donc moi, en faisant ce geste-là de mettre des auteurs sur scène, c'est pas forcément pour casser le modèle traditionnel de la pièce, ni pour le défendre à tout prix. Mais ça interroge en tout cas comment on inscrit l'auteur au théâtre. Et puis là, on le fait de manière spatiale, puisqu'il est sur scène, nous sommes sur scène, et puis également dans le temps, puisqu'on écrit en live dans la représentation, dans le temps de représentation.
Enfin, sur scène, vous ne l'êtes pas complètement. C'est votre collègue Julie Gilbert qui sera, elle, dans sa capsule sur scène. Vous avez quand même choisi de vous isoler un peu. Vous êtes en dehors
du
théâtre.
Oui, c'est juste. C'est vrai que l'histoire nous met dans une situation géographique d'éloignement. D'éloignement du monde, parce que c'est deux amis qui partent dans le Grand Nord qui fantasment un peu sur une retraite, puis qu'elles vont le faire pour de vrai. Et puis aussi d'éloignement l'une par rapport à l'autre. Donc voilà, on a finalement décidé de tout montrer par le biais de l'une, qui est sa capsule est sur scène, on vit l'histoire à travers ses yeux, et moi je suis en dehors du théâtre, donc oui. Actuellement sur le parvis du temple allemand à la Chaux-de-Fonds où il neige à l'heure où nous parlons.
C'est vrai?
Et oui.
Vous avez la doudoune alors?
Ben, j'essaye de négocier un chauffage, mais c'est pas gagné.
Ça vous tombe comment, une idée comme ça?
Il y a beaucoup de points de départ qui se sont mélangés. En fait, il y avait un voyage en Islande que j'ai fait en 2012 qui m'avait beaucoup impressionné par la splendeur des paysages, l'hostilité aussi. Enfin, on se sent vraiment un tout petit mammifère qui a pas grand-chose pour se défendre. Les inquiétudes de fin du monde que j'ai un petit peu évoquées tout à l'heure. Voilà, mm-hmm. Cette idée qu'il y a une sorte de menace, enfin diverses menaces. La lecture de la route de McCarthy, qui a été pour moi un immense choc, en fait. Et puis, j'ai lu d'autres œuvres post-cataclysmiques, mais récemment, Antoine Volodine, Le Terminus Radieux, mm-hmm. que j'ai trouvé aussi extraordinaire, dans l'humour aussi qu'il peut amener là-dedans. Voilà, ce qui m'amène vraiment à considérer que la thématique, c'est une chose, mais après, l'enjeu, c'est créer une œuvre.
Il y a le thème, il y a aussi la forme, et c'est ce à quoi vous appliquez, Antoinette Richner. Écrire dans une capsule, dans une cellule, forcément, ça renvoie à l'imagerie collective qu'on a de l'écrivain qui mène une vie monacale.
Oui, il y a un petit peu de ça. Il y a l'expérience de solitude. C'est vrai que une des expériences dont je n'ai pas parlé, c'était une retraite que j'avais faite dans la maison d'un phare en Bretagne, dans le Nord Finistère. Donc j'étais pendant un mois sur cette île qui était semi-insulaire. En fait, quand la marée montait, ça me coupait de la côte. Symboliquement, ce n'était pas très loin, mais quand même, je ne pouvais pas traverser. Je n'avais pas de bateau, j'avais juste un téléphone, mais je n'avais pas de mail. Donc pour moi, c'était très intéressant de voir, une fois que le silence se fait, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on entend en soi, qu'est-ce qui se passe dans ce face-à-face avec soi-même.
Là, c'est l'isolement qui ne relève plus du choix. C'est l'eau qui s'impose à vous.
Oui, alors bon, là, c'était vraiment un choix que j'avais fait de vivre ça. Mais
oui,
dans notre histoire,
oui,
c'est... Oui, après, il y a toujours la réalité, tout à coup, qui creuse un petit écart.
Ouais.
Comment on peut surmonter aussi nos peurs.
Et ces enfermements-là, que ce soit dans un phare, dans une capsule ou dans une cellule, vous avez vécu ça aussi, cellule d'écriture au Grütli, je crois.
Ouais, exactement, oui.
Ça semble vraiment vous convenir. Ça stimule votre imaginaire, l'enfermement, Antoinette Richner?
Moi, je pense que pour l'écriture, en tout cas, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de zones de réclusion, si on veut dire comme ça, d'isolement, et puis des moments de partage aussi. Enfin, là, en tout cas, je prends mon pied de bosser avec une équipe, d'être entourée du comédien, du metteur en scène. Voilà, j'aime ça aussi. Donc, je pense que je pourrais pas, l'un sans l'autre, fonctionnerait pas.
Mais ce que ça raconte aussi, peut-être, Antoinette Richner, c'est qu'il faut pas grand-chose pour écrire. Vous qui écrivez dans votre roulotte installée dans votre jardin, quelques saucissons au plafond et puis
c'est parti en voiture.
Un ordinateur et c'est bon, ouais.
Oui, ben, je pense que c'est une chance quand même qu'on a en tant qu'auteur, c'est que c'est des moyens assez pauvres, assez légers et puis assez immatériels. Enfin voilà, moi j'ai une relation assez organique à mon clavier, c'est clair que j'ai besoin de mon ordi, mais je peux aussi prendre des notes sur un carnet. Et puis finalement, si je fais une balade dans la forêt, j'ai quand même des idées qui me viennent, donc c'est ça que je pense qu'on a une chance par rapport à d'autres arts qui sont beaucoup plus lourds en fait à manier.
Il y a quelque chose donc de très ludique dans ce concept, Frost. Vous avez, j'ai l'impression aussi, l'intention de vivre quelque chose, vous, en tant qu'auteur. C'est
oui,
une chose, l'expérience pour le public.
Ben, peut-être que je devrais revenir d'abord sur l'expérience pour le public, parce que je me dis que... Bon, nous, on vit l'isolement. Le public, lui, il voit donc ses textes projetés, il les lit. Et puis, en fait, je trouve intéressant parce que c'est comme une alternative. C'est-à-dire que la perception des mots, si elle est par exemple des mots imprimés dans un livre, on peut lire un texte comme ça, tout seul avec un livre. On peut écouter des mots dits par des comédiens au théâtre. Mais là, c'est encore autre chose, je trouve. Parce que le fait de voir vraiment l'écriture se faire, eh ben, y a plein de choses qui se passent. On voit les transformations d'idées, on voit les associations, on voit un petit peu la fabrique de ça, le making-of de l'écriture. Et puis,
on voit vos allers-retours aussi, vous effacez,
oui,
vous revenez en arrière, vous corrigez.
On voit nos fautes de frappe, on en fait évidemment. Mais je pense qu'il y a comme un petit suspense aussi de se dire, la phrase commence, puis où est-ce qu'elle va aller, qu'est-ce que sera le prochain mot? Un mot commence, comment il va se finir?
Ça me fait penser au cirque, à ces trapézistes, on le voit faire, on a peur pour lui. Vous ne croyez pas qu'on aura peur pour vous, parce que l'inspiration peut vous lâcher?
C'est possible. Oui, il y a de ça. Il faut se tenir un peu sur le fil. Et puis, il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Si tout à coup, il y a certains mots, une fois qu'ils sont écrits, ben, il faut faire avec. On ne peut plus revenir en arrière.
Il vous arrive souvent de commencer une phrase sans savoir là, comment vous allez la terminer ?
Oui, c'est toujours un peu un aller-retour entre des idées, voilà, des souhaits, j'aimerais écrire ça, un projet, j'aimerais écrire ça, comme ça, comme ça. Puis après, on se heurte toujours à la résistance un peu de la chose, quoi, de la matière. Une fois qu'on est dedans, il y a plein de difficultés qu'on n'a même pas soupçonnées. C'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les fondamentaux, en fait. Qui parle, comment, etc. Et puis, je trouve que c'est un aller-retour entre les intentions et puis après la réalité qui parfois prend le dessus. Parfois, c'est démoralisant. Et puis parfois, au contraire, tout à coup, c'est génial parce qu'il y a des trucs qu'on n'avait pas prévus qui arrivent. Puis c'est aussi pour ça que j'aime l'écriture.
Mettre au défi son écriture, parce que c'est ce que vous faites, Antoinette Richner, ça l'a fait progresser, ça l'a fait évoluer, vous pensez ? Alors que l'auteur, c'est vrai, quand il écrit, souvent, c'est ce que nous racontent nos invités, il se relise beaucoup, écriture, réécriture. Là, vous jouez avec la simultanéité. Est-ce que ce risque-là, ce goût-là que vous prenez, vous fait considérer autrement votre rapport à l'écriture ?
Je pense que je manque de recul pour l'instant pour voir vraiment les effets que ça aura, mais en tout cas, je pense que c'est intéressant d'essayer autre chose. Et puis, rien ne remplacera jamais, je pense, le texte vraiment abouti, parce qu'on, comme dans toute improvisation, comme pour des comédiens qui improvisent, on se rend aussi compte des limites du système, parce qu'il y a évidemment tout à coup les magies de juxtaposition, parce que quand Julie Gilbert et moi-même écrivons en même temps, il y a des liens très intéressants qui peuvent se faire. Mais il y a aussi évidemment des pauvretés qui peuvent se trouver par moment. Donc pour moi, rien ne remplace en fait vraiment le mode d'écriture que j'avais avant. Mais c'est comme si je prenais un chemin de traverse, puis certainement qu'il y aura un ricochet dans ma pratique de tous les jours.
Vous avez lâché un mot, Antoinette Richner, qui semble compter dans votre parcours, dans votre manière en tout cas d'aborder l'écriture, c'est « essayer ». Essayez, vous aimez prendre des risques en écriture ?
Sortir de son confort, sûrement que ça amène, ça amène des choses imprévues, ça amène à essayer de se surpasser. Ouais, j'ai de nouveau dit essayer, mais pour moi c'est que ça en fait, c'est l'écriture, c'est que essayer. Évidemment qu'il y a un moment quand on sort de sa capsule, on sort de sa roulotte avec un texte, on aimerait le faire découvrir par des lecteurs, et à ce moment-là, on aimerait qu'il soit abouti. Donc, c'est pas que essayer, mais au début, en tout cas, c'est que de l'essai. Puis c'est aussi beaucoup de marche arrière, d'échecs.
Vous écoutez la première, Vertigo, l'auteur neuchâteloise Antoinette Richner, notre invitée. Jusqu'à 17h30, vous avez toujours écrit, Antoinette Richner, depuis que vous savez former des lettres, assembler les mots. Quand est-ce que c'est devenu sérieux ?
À travers mon passage à l'Institut littéraire, c'était en 2006 jusqu'à 2009.
Institut littéraire à Bienne ?
Oui, mais qui fait partie de l'école d'art de Berne, en fait, la structure. Et puis...
C'est quoi cette école ?
C'est une école d'art donc, qui a ouvert un département d'écriture. Moi, j'étais dans la première volée, donc c'était un peu... On expérimentait ça, voilà. On était seulement deux francophones, pour beaucoup de germanophones, parce que c'est une formation bilingue. Et l'idée, en fait, ça peut surprendre encore maintenant, même si ça fait quelques années que ça existe, mais c'est pas réellement d'apprendre à écrire dans le sens où on nous donne des recettes, comment créer un roman qui va cartonner, mais c'est plutôt de faire écrire, de laisser écrire et d'avoir des lecteurs qui sont des gens compétents pour ça, des auteurs confirmés eux-mêmes qui nous lisent d'un œil bienveillant mais critique en même temps. Puis ça, voilà, le principe central de cette école.
Qu'est-ce que vous en retenez, vous ?
Beaucoup de choses. Ben, déjà, j'ai l'impression d'avoir été privilégiée, d'avoir été dans ce milieu où tout le monde écrivait autour de moi. Ça créait une émulation pas possible, en fait. On voyait tout le monde tenter des trucs, essayer un peu ce genre d'écriture, plutôt par là. Puis le fait de voir tout ça et de côtoyer aussi des auteurs confirmés, ben, ça permet en fait, de se positionner. Ça permet d'essayer sur des petits volumes aussi, des textes, quitte à les garder dans les tiroirs. Donc voilà, les ateliers étaient aussi très, très différents les uns des autres. Il y avait
des poètes. Mais vous écriviez, vous avez des devoirs, vous avez des interrogations, des examens ?
Ben, on était en fait sollicités, oui, à écrire beaucoup et à lire aussi énormément. Donc oui, si on veut des devoirs. Après, c'est clair qu'on a une forme d'autonomie quand même.
J'essaie de comprendre parce que c'est vrai que ça peut paraître étrange d'académiser ce qu'on pense être un art et qui n'a rien de technique, alors que si, visiblement.
Ben, si, il y a quand même toujours des questions narratives de base qui se posent dès qu'on essaie d'écrire quelque chose. Des questions de narration, de forme. Et puis voilà, les ateliers, parfois c'était des intervenants de théâtre, parfois de critique littéraire, parfois du poème, parfois ils venaient de plein de formes d'écriture. Donc ça donnait l'occasion de s'essayer un petit peu à ça. Et puis le tronc central de la formation, c'est ce qu'on appelle le mentorat. Donc en l'occurrence, moi j'étais suivie par Antoine Jacou sur 3 ans. Et là, c'est vraiment nos productions personnelles. Donc c'est ce qu'on aurait envie d'écrire pour soi, ce qu'on propose. Et lui, le mentor lit ça et il nous fait des retours. Donc on le voit régulièrement, on en discute. Voilà, et les ateliers, c'est en groupe.
Vous êtes encore en contact avec Antoine Jacou?
Oui, un petit peu, oui. Puis c'est vrai que c'est une voix qui me reste, en fait. Évidemment, après, on doit faire son chemin tout seul. Mais il y a quand même des principes qui me sont restés. Ouais.
On étudie la psychologie, on devient psychologue. On étudie la médecine, on devient médecin. Alors, vous avez appris avec l'Institut littéraire à Bienne qu'écrire, c'est un métier comme un autre?
Non, ce n'est pas un métier comme un autre, parce que j'ai exercé un autre métier avant. J'étais technicienne de spectacle. Et puis, donc voilà, je faisais de l'accueil de compagnie, donc c'était plutôt un métier d'exécution, on peut dire, même si évidemment il y a des facteurs humains, des facteurs d'improvisation. Mais non, j'ai le sentiment que l'écriture, c'est quand même un risque de tous les jours.
Vous en vivez aujourd'hui ?
Oui, j'en vis, mais il faut savoir que c'est quand même extrêmement compliqué. Il y a des hauts et des bas, et puis bien sûr que le livre ne fait pas briller la marmite, en fait, donc il faut trouver plein d'autres techniques. Mais moi, c'est un mélange entre des ateliers que je donne, des lectures. Parfois, j'ai la chance de gagner une bourse ou un prix ou quelque chose qui m'aide aussi. Et puis, toutes ces activités-là, pour moi, elles sont comme des signes d'un seul et même réseau. C'est comme les champignons, il y a le mycélium en dessous. Et puis après, ça apparaît. Une fois, c'est un livre, une fois, c'est un spectacle, une fois, c'est un atelier que je donne. Mais pour moi, tout est relié à ma manière de sentir les choses et de faire les choses.
Le même élan, donc l'écriture, c'est des histoires que vous racontez sous forme différente. Les performances, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup en Suisse allemande, en Suisse romande, enfin les soirées lecture ressemblent à autre chose, quelque chose d'extrêmement solennel. C'est une autre manière de faire la littérature. Est-ce que c'est aussi, Antoinette Richner, une autre manière d'amener le public à d'autres formes de littérature?
Vous parlez des lectures? Oui.
Ou ces performances que vous proposez telles.
Oui, c'est peut-être une façon de désacraliser un petit peu ou de moins inquiéter sur le côté intellectuel ou le côté de concentration extrême. Mais après, je pense que ça reste quand même. On peut proposer plein de formes ludiques, mais suivre une lecture, ça reste une activité qui demande une certaine concentration quand même.
C'est exigeant.
Oui, je pense. Ouais.
Plus qu'un film au cinéma.
Non, un film aussi, suivant si les scénaristes sont tordus.
Vous vous êtes créé une famille, Antoinette Richner, ou plutôt une bande de copains, des auteurs avec qui vous aimez travailler et échanger. Il y a une émulation en Suisse romande?
Oui, clairement, oui, mais c'est un petit territoire, on se connaît tous. Je pense qu'on peut encore travailler ça, nourrir ça, ces échanges entre nous, les échanges littéraires. C'est vrai que moi, comme j'étais à l'Institut littéraire, puis que c'était un milieu où on se lisait beaucoup parmi, j'ai eu un petit peu la nostalgie de ça à la fin. Tout à coup, je me suis sentie un petit peu seule. Donc voilà, moi j'apprécie de pouvoir avoir des contacts avec les autres auteurs que je connais. Ouais.
Sur la première, c'est Vertigo jusqu'à 18h.
Antoinette Richner, vous en faisiez allusion tout à l'heure à votre travail dans les coulisses du théâtre. Vous avez commencé par... accessoiriste, c'est ça, pour l'opéra de Lausanne?
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous faisiez?
Je bricolais des accessoires assez rapidement pour les répétitions. Il y avait tout à coup des demandes un peu improbables qui surgissaient. Il fallait un livre de prière, il fallait un bouclier, il fallait un parapluie. Voilà, on arrivait avec des choses. Et puis après, ben, il fallait fignoler tout ça pour les spectacles.
Vous connaissez aussi la machinerie, les éclairages?
Oui, j'ai un petit peu touché à tout par la suite. Ouais.
Pourquoi?
J'avais une fascination en fait pour l'arrière du décor. Je crois que la première fois que j'ai un peu découvert ce recto verso, c'était en fait en super activité. Je faisais les poubelles au Montreux Jazz Festival. J'avais dégoté le super job d'étudiante. Et voilà, tout à coup, je suis entrée en fait dans le backstage et j'entendais le concert depuis l'autre côté. Et puis, j'ai eu vraiment le flash de me dire que c'était ça que je voulais faire.
Être derrière. Hein.
Être derrière, oui. Et puis finalement, comme auteur de théâtre, j'ai encore des fois l'impression d'être derrière, parce qu'en tout cas, je suis invisible et je suis bien comme ça.
La scène, ça vous a jamais attiré d'être devant ?
Non, pas du tout. Ça me paralyserait d'angoisse, en fait.
Vous êtes timide, c'est pour ça ? Il y a pas mal de timides qui, justement, qui...
Oui, assez.
Qui montent sur scène.
Il y a de la timidité, puis je me sens plus à l'aise dans l'élaboration de mots que dans l'élaboration de gestes ou de paroles, je pense.
L'élaboration d'accessoires, ça, vous avez su faire. Brancher une sono, vous savez faire. Ces mains dans le cambouis, ça vous manque aujourd'hui ?
Parfois, ça me manque un peu, en tout cas, de bricoler un peu le bois ou le métal. J'aimais bien ça, l'odeur du métal quand on soude, par exemple. Mais maintenant, à la maison, on a réussi à faire un petit atelier, donc je me fais plaisir parfois.
Qu'est-ce que vous faites dans cet atelier ?
Une maison pour les oiseaux, un escalier pour monter à ma roulotte, diverses choses.
Ça vous sert aujourd'hui, ce passé-là en technique, en théâtre, ou ça vous dessert ?
J'ai toujours du mal, en fait, à savoir. Je sais que le passage n'était pas si facile, parce que tout à coup, j'avais du mal à, moi, me positionner comme artiste. Mais maintenant, j'ai l'impression que, oui, quand même, ça me sert dans une connaissance globale, en tout cas, de tous les éléments du théâtre. Une réalité, un aspect peut-être pragmatique de ça.
Est-ce que cette connaissance-là maintient le sens du merveilleux de l'auteur ? C'est-à-dire que, est-ce que le théâtre reste quelque chose de merveilleux quand on connaît tous les métiers ?
Oui, moi je me lasse pas, en tout cas comme spectatrice, je me lasse pas. Un spectacle que j'aime, ça me fait toujours un bien fou. Et puis en fait, je trouve toujours émerveillant de se dire que l'être humain a cette faculté de jouer à quelque chose pour se faire plaisir, en fait. Qui veut jouer la comédie devant d'autres pour représenter quelque chose symboliquement, ben, je trouve ça génial.
Oui, j'ai jamais pensé à ça. C'est quelque chose de l'enfance, en fait.
Oui, je pense les jeux d'enfants, oui. C'est tout à fait ça. On disait que ça, c'était un bateau. Et puis voilà, je trouve qu'il y a ce pouvoir-là du théâtre, quand même, qui est très différent du cinéma. C'est-à-dire qu'un cendrier au cinéma, c'est un cendrier, quoi. Tandis qu'au théâtre, on peut dire que c'est n'importe quoi, puis ça fonctionne. Puis ça, par le bon vouloir de ceux qui le font, puis ceux qui regardent. Puis ça, c'est un truc que je continue à trouver hallucinant.
Une sorte d'accord tacite.
Ouais, d'imaginaire, l'accord imaginaire.
Entre public et ceux qui font le théâtre. Il y a plein d'autres manières de faire le théâtre. Vous avez choisi l'écriture, la mise en scène. Ça vous a jamais tenté ?
Non, pas du tout. Je crois que j'arriverai pas déjà à diriger des comédiens. Enfin, j'aurais l'impression que ce serait trop compliqué de transmettre vraiment ce que j'imagine. Et puis, je trouve que c'est un ensemble très lourd, en fait, un dispositif très lourd, hein, tout ce qu'il y a justement à maîtriser techniquement dans le temps. Souvent, on a peu de semaines pour créer un spectacle. Donc, moi, je pense que je serais très vite dépassée, en fait.
Et Frost ? C'est vous qui l'avez imaginé ?
Oui, c'est un peu
hybride. Ça n'a pas été difficile de l'offrir à quelqu'un d'autre ?
Non, au contraire, j'étais très contente. Donc moi, j'ai imaginé ce Frost dispositif, je l'ai conçu. Mais il faut savoir que dans ma tête, c'est comme des atmosphères, des idées de rythme, mais ce n'est pas du tout traduit en langage scénique, en fait. Je ne sais pas comment ça sera la scène ou comment ça sera tout ça. Donc, j'ai besoin des autres. Et puis là, Ludovic Chazot, c'est le metteur en scène. J'avais déjà travaillé avec lui sur un autre projet où lui m'avait invité, en fait, sur un projet de sa compagnie. Puis là, bah, c'est l'inverse. C'est moi qui lui rends l'invitation. Et puis, je suis très, très contente de comment ça se passe parce que c'était pas évident pour lui. Je pense qu'il a dû vraiment comprendre ce que je voulais.
Oui, c'est pas forcément évident tout de suite.
Oui, s'immerger dans ce délire de capsule et de fin du monde. Et puis, au-delà de ça, eh ben, déjà traduire ça dans des signes scéniques, un langage scénique, donner une forme à tout ça. Et aussi, finalement, s'approprier le truc, et pas seulement exécutant, mais vraiment d'investir de lui.
Et d'apporter ça.
Il s'y est mis, vraiment.
Sa patte.
Vertigo.
Vous partez rarement, comme c'est le cas ici, de votre histoire personnelle, j'ai l'impression, Antoinette Richner, pour raconter une histoire. Vous faites partie de ces rares auteurs qui aiment bien explorer l'imagination.
Eh bien, je vais bientôt sortir un roman, en fait, mon premier roman. Et je ne vais pas en dire beaucoup, mais c'est quand même un homme qui a une relation particulière à son nombril. Et en fait, cette idée du nombrilisme, c'est quelque chose qui me travaille aussi beaucoup. parce que j'entends pas mal ça dans les... C'est un terme que j'entends beaucoup dans les critiques littéraires, par exemple. J'ai l'impression d'un reproche un peu moraliste qui me semble pas tout à fait adéquat, en fait.
Qu'on
comme si
pas
parler
le
de soi, ce serait mal. Et puis, quand je pense à des auteurs comme Annie Ernaux qui parle d'elle, de ses parents, de sa vie, ben, je me dis que ça m'a tellement apporté, moi, la lecture de ces livres-là, qu'en fait, c'est tout sauf égoïste.
Un premier roman, Antoinette Richner, merci pour ce,
et ouais.
ce scoop. C'est vrai que jusque-là, vous avez écrit différents livres, que ce soit en théâtre, que ce soit en des nouvelles. Le format court semblait vous convenir. Il y a eu Lettre au chat, récemment, oui. aux éditions D'autre part. Le roman, c'était quoi? Le besoin d'épaissir les personnages, de laisser le temps, de les accompagner plus?
Sûrement que j'avais besoin de me confronter à cette expérience de longue haleine, en fait, de la course d'endurance un peu. Ça m'a pris beaucoup de temps, plus de 3 ans, en fait. Et puis, j'ai eu, en tout cas, du mal au début, simplement à manier le volume, en fait. Vraiment avoir la maîtrise de la structure totale, j'ai trouvé que c'était très compliqué. Et puis, je pense qu'il y a vraiment un savoir-faire aussi de ça qu'il faut acquérir.
Antoinette Richner, je rappelle que votre tout nouveau spectacle Frost est à voir à la Chaux-de-Fonds au Temple Allemand dès demain soir et jusqu'à dimanche. Le concept se déplace au Théâtre du Pommier à Neuchâtel du 29 au 31 octobre et plus tard en décembre au Théâtre 221 à Lausanne. Grand merci d'avoir accepté l'invitation de Vertigo. Belle soirée.
Merci beaucoup à vous.
Et merde pour demain.
On prend.